édition de la Sarine, vous présente
Radio Fribourg, coin de ciel.
Christ est ressuscité. Joyeuse fête de Pâques, chères auditrices et auditeurs. Comment, en ce matin tout neuf, vous saluez autrement Christ est ressuscité? Cette nuit, la joie des chrétiens s'est répandue comme une flamme serpentant à travers le monde entier, célébrant la résurrection du Seigneur dans la lumière et les chants joyeux. Nous nous associons à tous ceux pour qui cette résurrection est l'élément central de l'histoire et de leur vie. En nous demandant parfois cependant, il faut l'avouer, qu'est-ce que ça signifie dire que le Christ est ressuscité ? C'est justement la question à laquelle tente de répondre un livre qui vient de paraître, écrit par un intellectuel fribourgeois, François Gachou, sous le titre « Comment penser la résurrection ?». Ce livre, un essai philosophique, est paru fin mars aux éditions du Cerf de Paris et vous pouvez le trouver en librairie. Vous connaissez François Gachou. Il a enseigné au Collège Saint-Michel, au Collège du Sud. Il a écrit pendant longtemps une chronique philosophique très appréciée dans La Liberté. En novembre 2012 déjà, je l'ai reçu à ce micro pour parler de son livre « La philosophie comme exercice du vertige ». L'originalité de son nouveau livre est d'alterner subtilement la lecture attentive des textes bibliques et le questionnement philosophique. Que penser de ce phénomène appelé la résurrection du Christ ? Je ne vous en dis pas plus. Après avoir lu son essai, j'ai proposé à François Gachou quelques questions et je vous livre en vrac sa réflexion.
L'idée d'écrire ce livre m'est venue d'un dialogue avec un philosophe qui s'interrogeait sur la résurrection parce que ça lui faisait question. Et ça lui faisait question au sens de ce mystère qu'est au fond la condition humaine. Pourquoi notre condition humaine est à la fois charnelle, corporelle et spirituelle? Comment au fond concilier les deux? Et quant à la résurrection, comment expliquer que le Christ ressuscité qui apparaît aux témoins que sont ses propres disciples et quelques femmes, comment ce Jésus peut-il plausiblement apparaître à des yeux humains, ceux qui l'ont connu, pour attester de la vérité de cet événement historique? C'est un sujet qui me paraît capital. Tout simplement parce que si Jésus de Nazareth, crucifié, prophète, n'était pas ressuscité, il n'y aurait tout simplement pas eu de civilisation chrétienne et de religion chrétienne. Et cette religion est fondée sur un événement historique qui couronne en fait l'œuvre du Christ en son message comme en ses actes, parce qu'au lieu de finir par une mort douloureuse et lamentable, ce message et la portée des actes du Christ finit dans la plénitude de la vie éternelle non pas d'un esprit pur, non incarné, car nous ne sommes pas des êtres de ce genre, mais si il a voulu prendre la condition charnelle, c'est tout simplement parce que l'homme, en sa personne et en son fond, est chair et esprit, et jamais corps simplement séparé d'une âme qui survivrait. C'est tout l'homme qui ressuscite en Jésus. Et donc, c'est évidemment un mystère de foi, parce que ça dépasse une analyse scientifique, ça dépasse aussi même l'analyse simplement technique des textes que nous livrent les évangiles ou les épîtres du Nouveau Testament, qui sont en fait les textes fondateurs, les textes de base, attestant ce qu'est la foi chrétienne. J'ajouterai judéo-chrétienne, parce qu'il ne faut pas oublier que les apôtres, comme Jésus, étaient juifs. Et ils s'inscrivent par conséquent dans cette longue tradition depuis Abraham, c'est tout de même 1800 ans environ. La Torah, Jésus la connaissait très bien. Il allait à la synagogue, il lisait la Torah, il commentait la Torah lui-même. Autrement dit, les disciples ont été certainement conduits par cet événement inouï qu'est la résurrection, à relire toute la tradition dont ils venaient, c'est-à-dire la tradition juive, à la lumière de la résurrection. Et ils l'ont fait d'autant plus opportunément que dans pas mal de textes de l'Ancien Testament, non seulement la résurrection des êtres humains est annoncée, mais elle est décrite chez certains prophètes, notamment le texte absolument superbe du chapitre 37 du prophète Ézéchiel, où le prophète est amené dans la vallée des morts et où le Seigneur Dieu lui dit de souffler sur ses corps pour qu'ils vivent. Et ses corps revivent avec leur chair animée du souffle. Je crois qu'il faut aussi comprendre, ou essayer de comprendre, que dans la conception biblique, on ne distingue pas le corps de l'âme, et il n'y a pas de vocabulaire pour désigner le corps seul. Le mot qui est toujours employé dès le premier chapitre de la Genèse pour désigner l'homme, c'est la chair. Et il n'existe pas de chair qui ne soit animée du souffle de la vie. Et cette vie, elle est donnée par le Dieu créateur, et selon l'image du second texte de la Genèse, lorsque l'homme est créé, Dieu se manifeste dans l'acte du souffle. Autrement dit, au lieu de parler d'âme, on parle d'esprit, et l'esprit n'est pas traduit, comme on le voit dans la configuration traditionnelle de l'Occident, comme quelque chose de mental. L'esprit fait souvent allusion à quelque chose d'intelligent et de mental, tandis que dans la tradition biblique, aussi bien de l'Ancien que du Nouveau Testament, il s'agit bien du souffle qui donne la vie comme une énergie intérieure au corps. Et donc un corps qui n'est pas une chair est une simple quantité de matière agencée, une sorte de quantité neutre dans l'espace qui ne reçoit sa personnalisation individuelle, car nous avons tous un corps et une chair très individualisés. Cela ne vient que parce que la chair est un sujet de vie et pas un objet simplement posé comme une quantité dans l'espace. On est donc dans le domaine purement qualitatif et par conséquent, à travers le développement des organes spécifiques avec les régulations hormonales, les processus immunitaires, etc., la vie s'est épanouie notamment dans l'homme à travers les qualités sensibles. On dit bien qualités sensibles car voir, entendre, toucher, ce sont des qualités sensibles. Il suffit de prendre l'exemple de la musique qu'on écoute. Lorsqu'on écoute la musique, il faut bien sûr des instruments pour la diffuser, mais la réception de cette musique quand elle parle à l'âme avec un sentiment de joie, de tristesse ou autre, est une perception tout à fait intérieure. Autrement dit, quand l'homme apparaît, la dimension qualitative de la vie n'est plus liée à la seule visibilité, mais à l'invisibilité. La vie est une modalité de fond de la subjectivité. Autrement dit, elle est la racine des racines qui fait que je suis une personne humaine vivante. Et cette chair vivante vient toujours à elle-même sans jamais pouvoir devenir extérieure à elle-même. Il n'est pas possible que nous sortions de la vie, au sens où nous pourrions mettre comme ça sur la table, à titre observable, nos passions, nos sentiments, nos émotions, nos idées, notre liberté, notre volonté. Tout cela n'est pas matérialisable, tout cela n'est pas quantifiable. Et quant à notre personne elle-même, lorsqu'on dit il faut respecter sa dignité, cette dignité est une valeur qu'on reconnaît et ce n'est pas une quantité qu'on peut mesurer. J'ai tenu, en composant ce livre, à lui donner une dimension philosophique et pas me contenter simplement de reprendre ce que la tradition de la foi chrétienne a toujours affirmé. Le Christ est ressuscité, c'est un mystère. Nous y adhérons par la foi. Évidemment que nous y adhérons par la foi, mais il me semble que philosophiquement, ces apparitions du Christ font tout de même question. Pourquoi, par exemple, les disciples qui le rencontrent ne le reconnaissent pas dans la visibilité d'un corps dont l'apparence semble avoir changé? Et pourquoi tout de même, quand il leur dit « mais enfin, c'est bien moi », ils le reconnaissent quand même? Comment expliquer cette double vue? Vue au sens corporel de l'œil et vue au sens de l'intériorité de la personne présente. Alors, il y a une tradition philosophique qui s'appelle la phénoménologie. Et moi, je me suis dit, comme le Christ est ressuscité en sa chair et qu'il est apparu comme un phénomène très particulier, il atteste qu'il est vivant et les témoins le rencontrent. C'est donc un phénomène historique, et comme c'est sur ce phénomène historique qu'est basée finalement la foi chrétienne depuis 2000 ans, c'est tout de même important de faire une approche de cette modalité phénoménale. Qu'est-ce qu'un phénomène ? Un phénomène, c'est très simple, c'est ce qui apparaît. Dans le mot phénomène, au sens grec, il y a le mot lumière, pha, phos. La racine du mot phénomène, phainomenon, c'est la lumière. C'est ce qui apparaît à notre conscience pour qu'on puisse en percevoir la compréhension, c'est-à-dire la saisie lumineuse de sa signification. Alors, qu'est-ce qui en nous nous permet de fonctionner pour comprendre? C'est notre conscience. Notre conscience, elle est comme une sorte d'ouverture à tout ce qui est possible de rencontrer dans la connaissance. Et alors évidemment, tant que l'être qui est devant nous, c'est-à-dire les objets de ce monde, tant que l'être n'apparaît pas à cette conscience, cet être n'est rien pour la connaissance. Il faut qu'il y ait une apparition, une relation entre la conscience et ses objets. Maintenant, ce qui est évident, c'est que tout ce qui apparaît à une conscience est extérieur à celle-ci, toujours extérieur. Même quand nous voyons une personne passer dans la rue, nous voyons un phénomène d'apparition de cet être vivant qui se déplace, mais nous ne savons pas qui c'est, nous ne savons pas ce qu'il pense, nous ne savons pas où il vit, etc. Mais c'est un objet de connaissance. Autrement dit, dès là qu'on se demande « mais où est la vie dans le rapport de la conscience à n'importe quel objet extérieur à elle ?» Où se trouve la vie? Eh bien, elle n'est tout simplement nulle part. Pourquoi? Parce que la vie, si on veut la saisir, n'est jamais qu'intérieure à elle-même. Il n'y a aucune vie qui soit objectivable en dehors d'elle-même. Je ne peux pas prendre mes sentiments, mes émotions, mes idées, mes choix libres, mes préférences, ma mémoire, etc., et les mettre sur la table pour observer tout cela visiblement. Et pourtant, c'est en nous. Autrement dit, en phénoménologie, on peut se poser la question, où est donc l'apparaître de la vie? Et un phénoménologue assez récent qui est mort au début de ce 21e siècle, qui s'appelait Michel Henry, ce phénoménologue a essayé de creuser cet apparaître de la vie. Il l'appelle un apparaître originel, parce que c'est un apparaître qui ne peut se manifester que de l'intérieur. Et donc là, nous ne sommes plus dans un rapport entre la conscience et ce qu'elle connaît, mais nous sommes dans un rapport de nous à nous-mêmes comme sujet de vie. Et nous savons très bien que ce sujet que je suis n'est pas celui de ma mère, de mon frère, mes amis. Chacun est sujet de sa propre vie et ne peut la percevoir que du dedans de soi-même. Autrement dit, je ne vois pas la vie au sens visible car elle est de nature invisible. Et je ne puis la saisir que parce que je suis présent à moi-même. Autrement dit, je ne peux savoir que je suis vivant que si je l'éprouve, que si j'ai cette auto-affection de moi avec moi, cette sorte d'étreinte intérieure de moi avec moi-même. Prenons l'exemple de la souffrance. Lorsque nous éprouvons une souffrance, il est absolument impossible de mettre un écart, une distance entre ce qui m'affecte et moi qui suis affecté par la douleur. Je ne peux pas prendre ma souffrance et la mettre hors de moi pour dire, voilà, je l'observe, pourquoi est-ce que je souffre et comment. Je souffre, je suis dedans. Et donc, lorsque j'éprouve une angoisse, ou un sentiment de joie, ou un sentiment de tristesse, nul ne peut se mettre à ma place. Et lorsque je les éprouve, cette angoisse, cette tristesse, cette joie, et d'autres sentiments ou d'autres passions, je ne peux les percevoir qu'en les éprouvant de l'intérieur. Ce qui nous conduit, d'après ce phénoménologue Michel Henry, à distinguer clairement, et c'est pour ça qu'il y aura un rapport avec le mystère de la résurrection, distinguer le corps et la chair. Le corps reste toujours un organe quantitatif qui est situé dans l'espace, et ce corps est une multitude d'éléments atomiques agrégés ensemble pour former des cellules, des organes, des propriétés chimiques et biologiques, c'est entendu, et chacune de ces parties qui composent un corps sont, quand ce corps est vivant, englobées dans une unité fonctionnelle qu'on connaît bien. Mais cette unité-là est tout à fait provisoire. Il est tout à fait clair qu'on peut dissocier ces éléments. Et la mort, finalement, n'est rien d'autre que la dissociation des éléments physico-chimiques de notre corps qui ne fonctionnent plus ensemble. Et ajoutons évidemment ce qui est essentiel, la vie n'y est plus. La vie qui unifie tout ça et qui fait que je suis vivant, elle n'est plus là. Le corps alors retourne à sa multiplicité, tout simplement. Mais si il en est ainsi du corps, il n'en est pas de même de ce qu'on appelle en phénoménologie la chair. Parce que la chair ne désigne pas ce corps comme composé physico-chimique et biologique, mais désigne moi en tant que je m'éprouve, moi, dans la vie. Et la preuve en est assez simple. Tous les verbes pronominaux que nous employons lorsque nous parlons d'un vivant. Le vivant, il s'entretient. Il se développe, il se conserve, il se nourrit, il s'adapte et finalement, il se reproduit. Qui a jamais pu expliquer le miracle de la reproduction, même si on sait comment les éléments de l'ADN sont informateurs de la condition, évidemment, physico-chimique de cet être vivant? Autrement dit, il faut bien distinguer le corps de la chair, et la chair est toujours du côté du sujet de vie, qu'on ne peut pas atteindre par la visibilité, mais seulement au sens qualitatif. Je ne vois pas mes sens internes comme la mémoire et l'imagination. Je ne vois pas ma liberté et mon intelligence. Je ne vois pas ma conscience, et pourtant nous savons bien que nous avons tous une liberté, une conscience, une intelligence. Il faut maintenant essayer de voir quel est le rapport de la chair à la vie ou le rapport du corps à la vie quand il meurt. Alors, tant que je vis, tant que le souffle de vie est en moi, la mort est absente. Et la mort n'est rien d'autre que finalement une absence, une désertion de la vie. Alors, une fois mort, ce corps n'est plus une chair animée du dedans qui me fait sujet. Et se pose évidemment la question, si le Christ est ressuscité, quel est le statut de ce corps? Est-ce que c'était simplement un corps déserté par la vie, ou est-ce que c'était une chair vivante qui animait la personne même du Dieu incarné? Alors là, on est évidemment dans une réflexion de type de foi, de type théologique. Et l'hypothèse que j'ai soutenue dans ce livre, c'est au fond celle-ci. Le Christ ressuscité est mort en son corps, il a traversé la mort, mais en sa chair, il a toujours été vivant parce que l'Esprit de Dieu, créateur de vie, est toujours resté présent en sa personne. Il faut que nous essayions de sortir de cette conception courante qui consiste à dire « Oh, mais la vie, c'est une affectation passagère de la matière, et puis quand cette vie n'anime plus cette matière, alors c'est fini, il n'y a plus de vie, le corps est mort. » Mais du point de vue de la chair invisible, le souffle de vie étant invisible, on peut se dire que si le Christ est ressuscité en son souffle de vie qui ne l'a jamais quitté dans sa chair, ce souffle n'est pas accessible à la visibilité. Et c'est probablement la raison pour laquelle les disciples, qui n'ont pas du tout pensé possible la résurrection. Ils ont douté, ils se sont dit, mais bon, ça finit très mal sur une croix. Ses disciples, lorsqu'il leur apparaît, ils voient un corps avec leurs yeux, mais ils ne perçoivent pas la présence de la vie du ressuscité en sa chair. C'est la raison pour laquelle nous nous trouvons en fait devant un profond paradoxe que décrit très bien le chapitre 24 de l'évangile de Saint-Luc, où l'on voit comment les choses se passent pour les disciples. Quand Jésus leur apparaît alors qu'ils sont réunis, tout d'un coup il est là présent, on ne sait pas comment ni pourquoi d'après le texte, alors ils sont saisis de stupeur. Et le texte précise très clairement, ils s'imaginaient voir un esprit, comme si le Christ avait été une sorte de présence fantomatique. Et alors le Christ de leur dire, « Mais voyez mes mains et mes pieds !» Ils savaient très bien que le Christ avait été crucifié. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, touchez-moi !» Et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'en ai. Donc, je ne suis pas un esprit fantomatique, je suis un être de chair et de sang comme vous, mais vous ne pouvez pas atteindre dans la visibilité corporelle la vie qui m'anime du dedans, raison pour laquelle ce corps n'avait plus la même apparence qu'avant. Et même lorsque le Christ leur dit « touchez et voyez », le texte ajoute ils demeuraient incrédules. Ils se refusaient à croire, ils restaient ébahis. Et c'est la raison pour laquelle le Christ leur dit, « Eh bien, mangeons ensemble. » Et il leur propose de manger un poisson grillé sous leurs yeux. Donc, ceux-là même qui ont connu Jésus ont commencé par ne pas croire en la résurrection. Et même lorsqu'il leur est apparu, ils ont eu beaucoup de difficultés pour passer à la foi. Et c'est la raison pour laquelle le très beau texte de Saint Jean qui nous relate ce qu'on appelle l'épisode de Thomas, qui est un des disciples qui était justement absent lorsque le Christ est apparu à l'ensemble des autres. Thomas ne voulait pas croire, ils lui ont dit « Mais on a vu Jésus vivant ». Puis Thomas dit « Mais si je ne mets pas mes mains dans les plaies qu'il a subies lors de la crucifixion, je n'y croirai pas ». Et Jésus se présente à Thomas en disant « Mais tes mains, c'est bien moi ». Mais ne sois plus incrédule, mais croyant. Et Saint Jean, de conclure, pensant sans doute et ayant écrit son évangile environ 50 années après la mort et la résurrection de Jésus, il écrit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Ceux qui croient sans avoir vu, c'est tout simplement nous, parce que seuls les témoins qui ont été présents aux apparitions du Christ ont pu fonder leur foi sur la résurrection. Et c'est sur la résurrection et sur rien d'autre, fondamentalement, que le christianisme a été fondé. Il y a une parabole que beaucoup de gens connaissent qui peut nous expliquer au fond pourquoi Dieu s'est tant intéressé à l'homme. Parce qu'après tout, s'il a créé l'homme par pure bonté, en lui donnant la liberté, privilège suprême, ne prenait-il pas au fond quelques risques, comme disent certains ? Il aurait mieux fait de pas créer l'homme libre, sachant tout le mal dont l'homme est capable. Il suffit de penser aux horaires des deux dernières guerres mondiales ou à l'extermination des Juifs ou encore au terrorisme actuel pour en être tout à fait convaincu à l'évidence. Mais dans ce texte qu'est la parabole du fils prodigue, on voit apparaître une représentation de Dieu qui est tout à fait surprenante et qui d'un autre côté explique le pourquoi de la liberté et le pourquoi de la volonté, au fond, de Dieu de sauver l'homme. Parce qu'après tout, on peut se poser la question, mais pourquoi voulait-il le sauver? Avait-il besoin d'être sauvé? On sait très bien que nous nous inscrivons dans une tradition où, depuis en tout cas le XVIIIe siècle, l'homme a des ambitions prométhéennes de justifier par ses propres forces et en tout sa propre raison d'être sans Dieu. nombreux sont aussi les gens qui ont rejeté Dieu en tant qu'il sauve l'homme. Or, cette parabole a ceci de très particulier, de très étonnant. Un père avait deux fils. Ces deux fils étaient bien dans le giron de cette petite économie familiale. Et puis voilà que le cadet dit « Moi, je veux ma liberté ». Alors le père lui dit « Bon, prends-la, puisque tu es libre ». Il joue la logique de la liberté en lui disant « Eh bien, va-t'en si tu veux ». Et le fils s'en va, il dilapide tout l'héritage que son père lui a donné en partant. Et puis, ayant tout dilapidé et se trouvant démuni, il constate évidemment qu'il a fait un très mauvais usage de sa liberté, puisqu'il n'a plus un rond, il n'a plus un sou, il ne sait plus où il en est. Et il se dit, mais non, d'une pipe, j'étais tout de même bien mieux auprès de mon père et de mon frère qui est resté auprès de mon père. Mais que faut-il lui dire s'il a envie de revenir vers lui? Alors il échafaude une représentation de son père qui correspond plus du tout à ce que son père était vraiment. Il se dit, bon, je suis coupable. Donc, si je retourne chez mon père, je vais lui dire « Oui, je reconnais ma faute, je suis coupable, j'ai mal usé de ma liberté, alors je ne mérite plus que tu me prennes pour un fils. Traite-moi comme un de tes autres ouvriers de ta petite entreprise. » Et ce faisant, on remarque, et c'est toute la pédagogie de Jésus dans cette parabole, ce faisant, il défigure l'image qu'il a de son père. Il fait de son père quelqu'un qui n'est plus un père, mais tout simplement un maître qui va punir, qui aura raison de punir puisqu'il a péché. Et donc, ce maître apparaît comme un despote écrasant. Combien de représentations de Dieu, encore aujourd'hui, ne projettent pas en lui, non pas un père aimant, mais un despote jaloux de ses pouvoirs, évidemment. D'ailleurs, dans le phénomène de la culpabilité et de la punition, chez chacun d'entre nous, lorsque nous avons honte de quelque chose, nous regrettons avoir fait si nous avons fait mal, nous falsifions en quelque sorte l'image et la représentation du juge et nous disons « oui, oui, le juge va me punir et puis après tout, je l'ai bien mérité ». Alors ce qui se passe dans cette parabole et qui est étonnant, c'est que le fils retournant vers son père s'aperçoit que son père ne lui pose aucune question, ne lui fait aucun reproche et il découvre en son père un homme heureux de le retrouver et qui lui dit, ne parlant même plus de cette faute, faisons une fête. Ce qui fait évidemment réagir le frère qui était resté auprès de lui en disant, mais alors maintenant tu fais une fête pour ce fils qui était perdu et qui est maintenant retrouvé? Alors que moi qui étais avec toi, pour moi, tu fais pas une fête. Moi, je ne me suis pas mal conduit. Je n'ai pas dissipé ma liberté comme mon frère cadet. Et le père lui dit, oui, mais lui, il était mort et il est revenu à la vie. Voilà le rapport qu'on peut introduire avec la résurrection de Christ. Lui qui était mort, il est revenu à la vie. Au fond, dans la perspective de Dieu qui n'est pas du tout la nôtre, et c'est ce qui est révélé dans cette parabole, Dieu ne fait que se réjouir de ses donations, de la donation du bien qu'il peut nous offrir. Si nous avons à regretter certes nos fautes, nous n'avons pas à voir Dieu à travers ce qu'il n'est pas. Il n'est pas un juge, il n'est pas un maître, il n'est pas un despote jaloux de ses pouvoirs, il est simplement un père aimant. Et pour terminer, je raconterai brièvement un autre épisode qui se trouve dans l'Ancien Testament et qui est un épisode absolument surprenant dans le deuxième livre de Samuel. C'est l'histoire tragique de David qui voit son propre fils Absalom se révolter contre lui. Et il y a même des batailles entre l'armée de David et l'armée d'Absalom qui veut prendre le pouvoir de son père. Or, il se trouve que le général de l'armée de David, à un moment donné, élimine Absalom et envoie un messager pour faire dire à David, « Absalom est mort, tu ne risques plus de voir ton fils prendre ta place ». Cet épisode est assez fort, on doit dire même très émouvant, parce que David monte dans sa chambre et il fond en larmes en disant « Que ne suis-je mort à ta place ?» Évidemment que cet épisode est à rapporter à la passion du Christ, qui meurt pour le péché des hommes, mais s'il meurt ayant traversé la mort, c'est tout simplement pour nous redonner la vie, comme le père de la parabole qui dit au frère, restez auprès de lui, il faut faire la fête pour lui parce qu'il était mort et il est revenu à la vie. Autrement dit, la résurrection du Christ est cet événement inouï que la raison ne peut pas démontrer, mais que la foi peut reconnaître et qui nous donne une vraie, une totale raison de vivre et une confiance absolue. La foi est au fond une confiance et la confiance, on la donne, on ne la retient pas.
Merci à François Gachou de nous avoir invités à une réflexion parfois difficile, mais riche en découvertes sur la résurrection du Christ et sur le sens qu'elle révèle. Je vous rappelle le titre de son livre « Comment penser la résurrection ?» Essai philosophique. Vous le trouvez en librairie. Vous pouvez obtenir un enregistrement de cette émission en téléphonant au 026 422 18 91. Vous pouvez aussi dialoguer avec moi en m'envoyant un courriel à l'adresse internet n.ruffieux@blueine.ch. Je vous invite à vivre pleinement le temps pascal dans la joie de la résurrection. Et pourquoi pas, en vous saluant les uns les autres, par ce salut cher aux orthodoxes, Christ est ressuscité, en vérité, il est ressuscité.